de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma, de films qui sont sortis sur les écrans et puis aussi eh bien, écouter des réalisateurs et réalisatrices. Il y aura un réalisateur, c'est Kleber Mendonça Filho, le Brésilien qui avec L'Agent Secret, son film, a remporté 2 prix à Cannes cette année. Nous l'écouterons parce qu'il justement il était en conférence de presse là-bas, sur la Côte d'Azur. Et puis nous écouterons aussi Alice Vial pour le film L'Âme Idéale. Et puis toi, tu as 2 films, Guillaume.
Oui, qui parlent de monstres, en fait. Alors, un tout public, La Fabrique des Monstres, et puis un autre pour adultes, L'Élu.
Mais nous allons commencer avec une femme capable de parler aux morts qui rencontre un homme qui lui redonne espoir jusqu'à ce que la réalité vacille. Nous parlons de L'Âme Idéale.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Les idées sont belles pour le film L'Âme Idéale d'Alice Vial. Alors la première, c'est l'idée de mêler la comédie romantique à un genre qui s'en détache normalement, hein, le fantastique. Alors évidemment, il y a eu Ghost, hein, mais les exemples, en tout cas français, sont tout de même peu nombreux. Et puis l'autre idée, c'est de donner à Jonathan Cohen un rôle qui n'est plus seulement comique, mais aussi dramatique. Dans L'Âme Idéale, il y a donc Elsa, la délicieuse Magali Lepine Blondeau, vue notamment dans Simple comme Sylvain, qui est une femme médecin, alors qui professionnellement eh bien s'en tire bien, mais personnellement a quand même du mal à trouver l'homme idéal. Alors Elsa, elle a un don, elle peut communiquer avec des personnes décédées, ce qui lui permet d'accompagner, alors véritablement jusqu'au bout du tunnel lumineux, ses patients, puisqu'elle est dans un service de soins palliatifs. Mais ça lui pose quand même un sérieux problème avec ses compagnons, bouh, la sorcière, voilà. Alors heureusement, elle croise la route d'Oscar, donc Jonathan Cohen, avec qui cela semble bien marcher. Alors voilà un début de comédie romantique. Sauf qu'Oscar n'est plus vivant et ne semble pas s'en rendre compte. Oups, voilà l'élément fantastique. Mais bon, l'amour est plus fort que la mort peut-être, alors il tente le coup entre vivant et mort de s'aimer. C'est là le nœud du film, puisqu'on se doute bien qu'une telle union est impossible. Il faudra pour Oscar trouver le moyen d'accepter sa mort, lui qui, musicien, eh bien, a toujours rêvé par exemple de voir le succès, hein, mais sans l'avoir de son vivant, et pour Elsa d'accepter de laisser partir ce compagnon rêvé. Alice Vial tente de lier à chaque fois, dans la douceur, la comédie romantique et le fantastique, laissant l'émotion s'immiscer, tentant une réflexion sur comment on conduit un amour. La mise en scène se heurte parfois à la convenance et parfois nettement à l'indigence. Il y a une scène de karaoké parfaitement ratée. Heureusement qu'on a le plaisir à avoir eh bien, les deux comédiens. Donc Jonathan Cohen qui en garde un peu sous le pied, ça fait du bien. Et puis la québécoise Magali Lepine Blondeau. Nous écoutons Alice Vial et Jonathan Cohen qu'on a pu rencontrer.
Dites-moi ce que vous avez fait hier soir.
Je suis tombée en scooter.
Ça va? Je pense qu'il faut aller aux urgences, là.
Ah non, merci. Oui, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est tout le chemin de ce personnage, Elsa, qui s'est isolée, qui s'est coupée des autres, et qui est son don l'a emmené, ce don morbide, quelque part. Il y a un endroit où elle le trouve peut-être un peu honteux, ou pas beau, ou en tout cas, elle a l'impression que le monde des vivants ne peut pas accepter cette capacité qu'elle a, et du coup, elle s'est complètement isolée, donc elle a terriblement besoin de reconnecter. Et ça va être Oscar, elle a terriblement besoin d'aimer à nouveau. Voilà, donc pour moi, les deux vont ensemble, en fait.
Et comment?
Il était charmant. Je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai raccroché.
Mais raccroché de quoi?
Des hommes, des histoires.
Promettez-moi de jamais renoncer à la tendresse.
Vous savez ce qu'il faut? De quoi faire des strips?
J'ai des vêtements que je peux enlever, si c'est vraiment nécessaire.
Oh, j'adore.
J'aime écrire et j'aime les films qui font rire et pleurer. Donc effectivement, ce ton-là, on est un peu sur un fil. Et on ne doit jamais tomber dans le pathos ou dans trop de loufoque. Et c'est un dosage d'ailleurs qui est exigeant.
Et quand tu loupes ta garde, toi? C'est un bon souvenir apparemment.
Le bus devant vous a freiné d'un coup. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits.
Pourquoi vous dites crabe ?
Il y a quand même eu un mort.
Comment est-ce qu'on filme un fantôme ? Comment est-ce qu'on... Voilà, et justement, on voulait qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la vie, parce que Oscar, il est entier, il est vivant, il est généreux. Donc, dès sa première apparition, il fallait qu'il soit très incarné, justement. C'est un mort qui a pas envie de partir parce qu'il est très incarné. Donc, c'est ça qui était intéressant. Donc, il fallait qu'il soit presque plus vivant. Donc, comment est-ce qu'on raconte ça ? Et on voulait pas tomber dans... aussi parce que ça avait déjà été fait, qu'il y avait cet écueil du kitsch et c'était pas le... Nous, on cherchait un réalisme poétique pour raconter cette histoire. Je voulais pas que les fantômes passent à travers les murs, ou ça a déjà été fait, et puis c'était pas... Nous, on voulait rester à hauteur de personnage et être dans... trouver le réalisme du film. Je dis pas qu'il est réaliste, mais trouver l'endroit de vérité, et donc à la lumière aussi. Et on voulait un fantôme très incarné, très vivant, voilà, qui ne soit pas pâle et... Et enfin, voilà, on a exploré, hein, on a été dans ces directions-là, et pour comprendre que c'était pas ça...
Mademoiselle, je comprends pas ce qui m'arrive.
Ma mère voyait les morts, elle aussi. J'imagine qu'elle m'a transmis le truc.
J'ai pas envie de te quitter.
Comme Alice l'a dit, ça a vraiment été un travail à trois sur toute l'histoire, sur la trajectoire des personnages, sur le ton du film. Sur les différentes étapes, parce que c'est un film qui traverse plusieurs tons différents. Justement, quand on traverse différents tons comme ça, c'est un peu comme un travail de funambuliste, c'est sur un fil. Et si on bascule trop dans un ton, alors on peut perdre le fil, et on peut perdre le film. Et donc c'était toujours rester sur cette ligne de crête. Pour qu'on puisse toujours y croire, pour que ce soit jamais une farce, et qu'au final, cette histoire d'amour, bah oui, on puisse y croire et la donner, ouais. C'est un risque qu'Alice a pris en prenant ce sujet, et nous-mêmes, en l'incarnant, parce que c'est des films qui peuvent aller n'importe où. Et du coup, ça a été un vrai travail commun de trouver une ligne, et de trouver quelque chose de clair, en tout cas de savoir ce qu'on voulait raconter.
Comme ça que t'as envie d'être aimé.
On s'en fout des gens. C'est avec toi que je suis bien.
Vous savez, moi je viens du théâtre aussi. J'ai fait le conservatoire, j'ai joué avec plein de gens exceptionnels où il n'y avait pas que de la comédie. Mais c'est vrai que la comédie, vous savez, dans le parcours d'un acteur, parfois, il y a des choses qui prennent le devant. Et moi j'aime la comédie, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis un amoureux de ce genre-là, qui est un genre très difficile. Parfois un peu pris de haut parce qu'on a l'impression qu'on ne fait que se marrer, mais au final on passe beaucoup de sérieux à travailler des vannes et beaucoup de travail pour que justement une précision pour que ça puisse toucher les gens. Mais au-delà de ça, non, moi j'aime tout, j'aime tout jouer. J'ai joué plein de choses dans ma vie, mais après bon, voilà, et c'est pas grave. Mais là il y a une partie de la, on va dire, de ma vie d'acteur où j'ai envie de traverser d'autres types de films avec des réalisateurs, réalisatrices qui m'amènent autre part et j'ai pas de problème à aller vers ces chemins-là. Au contraire, j'y ai totalement ma place.
Je t'ai vu vivre, c'est magnifique.
C'était Alice Vial et Jonathan Cohen pour le film L'âme idéale qui est en salle depuis le 17 décembre. Petit Cousu devient la star d'un cirque itinérant, mais à quel prix ? Nous parlons de La Fabrique des Monstres.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le château de Grottegroin. On raconte qu'il y a des monstres.
Tu seras la plus extraordinaire de toutes mes créations !
Non, encore un instant.
Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus. Alors à peine a-t-il le temps de donner la vie à ses protégés qu'il est déjà en train d'en fabriquer un autre, courant après l'idée d'arriver à créer la créature parfaite. Petit cousu, hein, ou stitch head en version originale, hein, ce qui veut dire en gros tête de poing ou tête recousue, sa toute première création sert de guide au nouveau monstre. Ce que le savant ne se rend pas compte, hein, bah, c'est qu'il a peut-être déjà créé une créature en soi parfaite avec ce stitch head, mais que son hubris ne l'a jamais reconnu. Alors un jour, hein, déçu de voir l'indifférence totale de son père le frapper encore une fois, un petit cousu décide de partir voler de ses propres ailes. Son départ coïncide avec l'arrivée d'un cirque en ville. À la recherche d'une nouvelle attraction, hein, son propriétaire Fulbert Montre-Monstre tombe amoureux de ce petit cousu qui décide d'exploiter en cachant l'aspect purement pécunier de sa démarche au pauvre bougre qui, bah lui, pense avoir enfin trouvé un endroit où on l'aime pour ce qu'il est. Mais il va se rendre compte qu'il n'est pas sa préoccupation principale dès lors que Fulbert découvre que le château d'où il vient contient toute une galerie de bizarreries qui pourrait le rendre riche. Alors tentant par tous les moyens d'accéder à cette fabrique de monstres, il va devoir composer avec ce petit cousu qui va comprendre envers et contre tous l'importance de défendre sa propre nature pour ce qu'elle est.
On a réussi, j'ai réussi.
Sois le bienvenu dans la presque ville.
Mon nom à moi, c'est Petit Cousu. Créature, je te présente les monstres.
Salut.
Il faut aller dormir maintenant.
Alors inspiré de la série de livres du même nom, hein, Petit Cousu, hein, la fabrique des monstres fait tout d'abord plaisir, hein, bah par son amour et son respect hein, évident hein, des classiques du genre, le Frankenstein de James Whale en tête bien évidemment. Et même s'il n'a pas la même force de frappe à budgétaire que Disney ou Pixar, bah je pense que c'est assez impossible de ne pas penser à la version animée que Tim Burton a tirée de son premier court-métrage live pour Disney, Frankenweenie, sur des thématiques un petit peu similaires. La mise en scène est dynamique, le panel de monstres inventif et le spectacle saura plaire autant aux amoureux des Universal Monsters hein, qui cherchent un film à montrer à leurs enfants qu'aux enfants biberonnés aux films d'animation contemporains surdynamisés dans l'action sans toutefois atteindre l'excellence hein, du découpage d'un Gendry Tartakovsky dans ses Hôtels Transylvania. Alors la fabrique des monstres hein, a été réalisée par Steve Hudson, un inconnu au parcours assez amusant car il a été entre autres acteur dans le fou Metal Jacket de Stanley Kubrick, ça s'invente pas. Pour son premier film d'animation, il a choisi un sujet assez classique car déjà maintes fois traité dans des œuvres, il faut le dire, plus prestigieuses, mais qui ne va pas l'empêcher de lui donner une résonance intéressante et d'en faire un terrain de jeu pertinent pour les enfants d'aujourd'hui.
Je promets de faire de toi une star célébrissime. Donne-moi la main.
Allez, lâche,
dis cousu.
Êtes-vous prêts pour les monstres?
Car oui, le résumé du film nous évoque les grands classiques du genre de Freaks de Todd Browning à Elephant Man de David Lynch en passant par Edward aux mains d'argent de Tim Burton. Alors il y a même le clin d'œil obligé hein, à la foule citoyenne en colère qui, entraînée par l'aveuglement de la peur et n'ayant que la violence comme solution à court terme, va vouloir éliminer ceux qui représentent l'étranger, celui qui est en dehors de la norme et qui menace donc la fausse paix sociale. Mais on ne s'en plaindra pas hein, à une époque où la différence d'opinion est montrée du doigt, est affichée comme une atteinte à la bonne liberté de penser et que les réseaux sociaux ont tout fait de transformer en scandale d'État. Les thématiques de la fabrique des monstres restent malheureusement d'actualité car, sous couvert d'une inclusivité, d'une bienveillance acerbe, nous n'avons jamais été aussi divisés hein, quant à la question du prix de notre individualité et de l'expression de notre propre identité. Le film n'oublie pas hein, de nous montrer que derrière tous ces mouvements de foule déchaînée, il y a souvent un agitateur, hein, comme le personnage de William Shatner dans The Insider de Roger Corman, et que la manipulation crasse a toujours de beaux jours devant elle. Rien que ce plaidoyer hein, sur l'ouverture d'esprit, la tolérance et la quête de soi, et pour essayer de raviver une flamme gothique quelque peu éteinte dans le divertissement familial actuel, ben rien que pour ça, le film vaut franchement le détour et saura trouver bon, un public jeune et attentif. Un mois à peine, le Frankenstein de Guillermo del Toro, lui qui était uniquement pour les grands.
J'ai un plan. Je vais partir sans tarder pour le village et tenter de le ramener.
Très courageux.
Mais très très courageux. Il est foutu. On doit toujours être là quand nos meilleurs amis ont besoin de nous.
La Fabrique des Monstres, film d'animation qui arrive à point nommé, évidemment pour les vacances, est déjà en salle depuis le 17 décembre. Dans le Brésil de la dictature militaire, un homme tente d'échapper à une surveillance invisible mais omniprésente. Nous parlons maintenant de l'agent secret de Kleber Mendoza, Filho, et c'est Sophia qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
L'agent secret de Kleber Mendoza, Filho, a marqué le Festival de Cannes en mai, récompensé par le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura, sa tête d'affiche. Et si Télérama parle de l'agent secret comme de l'autre Palme d'Or, il faut bien dire qu'à Cinérama, on est aussi un peu du même avis. Mon pronostic pendant le festival allait d'ailleurs dans ce sens. En tout cas, je ne voyais absolument pas ce film pouvoir repartir bredouille, pour celles et ceux qui se souviennent de notre chronique avec Vincent pendant le festival de Cannes.
C'est du vieux parking. Je prends la femme au fil.
Elle est un massacrage. Grave.
L'histoire se situe à Recife en 1977, en pleine dictature militaire brésilienne. Marcelo, ou plutôt Armando, son vrai prénom, est un homme au passé un peu trouble, incarné par l'exceptionnel Wagner Moura, qu'on a vu notamment jouer Pablo Escobar dans Narcos. Veuf et menacé, il doit prendre la fuite et changer d'identité, alors qu'au fond, il nourrit un seul désir, hein, retrouver son jeune fils, qui lui est obsédé par Les Dents de la Mer, un film qui passe alors dans les cinémas, et notamment le cinéma où le père de la défunte épouse d'Armando, hein, est projectionniste. Le film offre dès son ouverture, hein, une scène à une station-service où notre protagoniste se retrouve face à un cadavre abandonné sous un morceau de carton, et le voilà qui doit payer la police pour éviter toute implication. Tout pose le cadre. D'emblée, hein, d'un pays gangréné par la corruption et la peur. Notre Armando est traqué, il le sait, et le film installe une tension épaisse, écrasée par la chaleur et la violence politique.
Ça non sabe con quien vas estás metiendo, rapaz.
Hombre dirá que Brasil mejor, como en espinaza.
De ese cara.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, L'Agent Secret n'est pas un thriller d'espionnage, hein, classique. Marcelo Armando est un homme calme, non violent, sans armes, hein, pour se défendre. Mendonça Filho préfère l'attente et les digressions. C'est aussi car le film se construit à travers un autre regard, celui de Flavia, une étudiante qui, dans le temps présent, retranscrit des cassettes d'archives et se met à reconstituer l'histoire de ce Marcelo Armando à partir d'enregistrements sonores de sa voix qu'elle exhume et qui l'obsède. Et c'est exactement ainsi que les éléments diégétiques nous font vivre le récit, par morceaux, par traces, avec cette sensation que la mémoire est toujours incomplète, parfois trop complète, essentielle en tout cas pour comprendre et réparer. Kleber Mendonça Filho s'amuse du cinéma et l'exulte, avec des split-screens, des images panavision, une musique éclectique et des séquences presque surréalistes, hein, comme cette étrange légende urbaine autour d'une jambe humaine, poilue, retrouvée dans le ventre d'un requin. Des séquences éminemment tarantinesques, hein, jusqu'aux courses-poursuites, avec les tueurs à gages lancés aux trousses d'Armando. L'Agent Secret est peut-être moins un film d'espionnage qu'un film sur ceux qui conservent les traces, les archives, les voix, dans des régimes construit sur le silence. Un film où l'agent secret n'est pas forcément celui que l'on croit, hein, mais peut-être celles et ceux qui refusent d'oublier.
Nous écoutons maintenant le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, qui était présent à Cannes en conférence de presse.
C'est fait aqueles programas americanos de proteção à testemunha.
Le film a commencé avec une série de notes toutes personnelles que j'ai rassemblées au long de plusieurs années. Et je voulais développer un projet d'analyse historique, un film d'époque, c'est ce que je voulais réaliser, un film historique qui puisse représenter tout le défi technique qui est celui de recréer une époque, pas seulement à partir d'archives, mais seulement à partir de souvenirs tout à fait personnels. Et 1977, c'est la première année dont je me souviens. Je me souviens très clairement, parce que j'avais 9 ans à l'époque. Et pour toute une série de raisons familiales, c'était une année marquante pour moi, 77, 78. Et je crois que plus j'écrivais, plus j'entrais dans cet univers. Et pendant le processus d'écriture du scénario, et on aurait dit que j'avais ouvert un portail et que j'étais immergé dans le passé du Brésil, de Recife, dans le Pernambouc. Et voilà la genèse de ce film.
sais, je crois que la paranoïa, le
medo. La paranoïa, en fait, c'est la tension. La peur sont des thèmes très cinématographiques. Ils passent bien à la photographie. On peut vivre une vie tranquille, en paix, mais et même la société autour de vous est tendue. Je pense que ces éléments sont tout à fait naturels dans un récit. Le petit chaperon rouge s'est tendu. Donc, je crois que Les Bruits de Récif est un de mes films qui est tendu. Il est contemporain. Mais là, j'écris un film qui se passe dans les années 70 où les choses étaient vraiment tout inversées. Et je pensais que la tension qui règne dans le film est naturelle, vu le contexte de l'histoire. Et le personnage de Wagner est tout à fait conscient. Et d'ailleurs, il transmet, il est informé d'ailleurs qu'il court un risque d'être assassiné. Donc voilà, ça rajoute à la tension. Il y a eu des critiques qui sont sorties, qui ont été très positives sur le film, qui mentionnent beaucoup le cinéma américain, mais c'est en fait, je suis un grand admirateur de la production des années 70 aux États-Unis. Mais il est très important de mentionner que j'ai beaucoup pensé à Nelson Pereira dos Santos du Cinema Novo, vu l'intimité qu'il montre à l'écran. Éléments qui m'a plus conduit, motivé à écrire ce film, c'est que
mon pays, le Brésil,
a un problème d'amnésie auto-infligée et qui, en fait, a été aggravé par l'amnistie qui a été décrétée en 1979 et proposée par le gouvernement lui-même qui, depuis 1964, avait commis des actes de violence infinis contre la population brésilienne. Et cette amnésie, elle a causé un traumatisme dans la psychologie du pays. C'est devenu normal de commettre tout type de violence et de passer l'éponge, tout simplement après, et de recommencer comme si de rien n'était, et continuer, tourner vers l'avant. Parce que c'est très désagréable de parler de certaines choses, tout simplement. Et je crois que c'est un élément qui a beaucoup participé à ce désir de monter ce film.
C'était Kleber Mendoza Filho pour le film L'Agent Secret. Alors, comme l'a indiqué Sophia, ce film méritait largement la Palme d'Or. C'est ce qu'on pense en tout cas à Cinérama. Il est mérité qu'il reparte avec le prix de la mise en scène, tout comme le prix d'interprétation masculine, car la qualité du film tient à son déroulement comme à son incarnation. Nous suivons cet homme dont on ignore donc le passé, qui rejoint des réfugiés. C'est période carnaval au Brésil, il y a des morts, on ne les ramasse pas tous, et nous sommes dans une société où la police est corrompue et n'hésite pas à aller casser du PD pour s'amuser. La grosse ambiance. Se déroulant donc en trois parties, le film combine aussi les époques, hein, comme l'a indiqué Sophia. Cette histoire du Brésil de la dictature nous est racontée grâce à une jeune fille dont la tâche est de retranscrire des archives. Alors si le personnage du réfugié est central, le réalisateur le fait osciller entre son beau-père et son fils, comme pour mesurer le passage de cette histoire entre les générations. On navigue entre thriller, espionnage et même un peu de gore. Hein. Il y a une jambe qui est retrouvée dans un requin. Formellement, Kleber Mendoza Filho aime la caméra qui bouge, entoure ses personnages et livre un récit sans faille, vraiment sans faille. Hein. L'apparente sérénité du personnage est contaminée par la violence de l'État. C'est un film sur la mémoire autant qu'un film profondément humain sur ce qui fait société, et c'est un film incroyablement lumineux. Voilà, c'était vraiment ce qui émergeait de toute la programmation du Festival de Cannes. L'Agent Secret de Kleber Mendoza Filho est en salle depuis le 17 décembre, et si vous n'avez toujours pas vu de film du réalisateur brésilien, je vous conseille le précédent aussi, qui était vraiment fameux, une sorte de film de genre qui s'appelait Bacurao. Seul dans un chalet isolé, Lise découvre qu'une présence maléfique y cache de terrifiants secrets. Nous parlons de l'élu.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Existe-t-il un moyen de faire perdurer l'amour?
On a connu le prolixe Yorgos Lanthimos avec pas moins de 3 films en moins de 3 ans, hein, avec Pauvre Créature, Kinds of Kindness et Bugonia, hein, dont je vous avais parlé il y a peu. Dans cette foulée, on retrouve Osgood Perkins qui, après le remarqué Long Legs l'été 2024, est revenu en début d'année avec The Monkey, hein, l'adaptation de Stephen King, et maintenant avec L'Élu ou The Keeper en version originale. Alors je précise l'importance du titre français, un peu trop révélateur sur son intrigue, hein, comme on le rencontre un peu trop mécaniquement, hein, dans les titres traduits ces derniers temps au pays de Patrick Sébastien, car cela avait déjà été le cas avec les deux films des frères Philippou, hein, La Main et Substitution. Alors, toujours est-il que Osgood Perkins, hein, après avoir connu un gros succès public avec Long Legs et un enthousiasme plus critique que populaire avec The Monkey, bah, joue quelque part gros avec cet élu qui est censé prouver ou non qu'il est désormais un nom incontournable de l'horreur contemporaine.
Est-ce que je connais vraiment cet homme ? Lorsque je ferme les yeux, est-ce son visage que je vois ? Ou seulement le masque qu'il porte ? Je pense que c'est le bon.
Alors pour fêter le premier anniversaire de leur relation, Liz et Malcolm partent dans le chalet isolé, hein, de ce dernier. Alors vous avez l'impression d'écouter le résumé du début d'Evil Dead 2, lui-même calqué sur la progression scénaristique d'Evil Dead 1, les chefs-d'œuvre de Sam Raimi. Eh bien c'est bel et bien voulu par l'auteur lui-même, hein. Alors il décide de faire de ce cadre apaisant et en apparence idéal pour des retrouvailles en amoureux d'un couple, eh ben, un véritable cauchemar conjugal, hein, car on s'en doute, leur séjour ne va pas être de tout repos. Alors il y a d'abord des bruits, puis il y a des apparitions et des visions et des cauchemars qui vont hanter les deux tourtereaux. À ceux-là vont se greffer des voisins inquiétants et on a désormais le parfait bingo, hein, des tropes du cinéma d'horreur de ces 45 dernières années.
Pourquoi faut-il toujours que ça s'arrête ? Existe-t-il un moyen de faire perdurer l'amour ? Please. Toujours là, à m'observer. Je pense que c'est la bonne.
Même s'il est doté d'une bande-annonce assez efficace, hein, L'Élu n'a au final pas grand-chose à défendre sur la longueur. Alors c'est étonnant, hein, de voir une succession de louanges prestigieux dans la même bande-annonce, hein, car le résultat est au final loin d'être vraiment mémorable. On y retrouve quand même pêle-mêle, hein, les avis élogieux de James Wan, Guillermo del Toro, Damien Léon, Hideo Kojima. Alors peut-être veulent-ils défendre leurs camarades qui essaient de ne pas tomber dans une facilité qui a un peu gangréné un cinéma d'horreur des années 80 et 90, mais c'est probablement là que réside selon moi le problème. Hein, L'Élu est un énième film d'horreur contemporain à dissocier ses métaphores de la narration qu'il est censé offrir au public et n'arrive donc pas à être pleinement satisfaisant sur le plan du film d'auteur et sur le plan du divertissement. C'est d'ailleurs étonnant, hein, que Damien Léon y trouve son compte, car Perkins lui emprunte de manière un peu pompeuse, hein, une créature ressemblant quand même pas mal à son Art le clown de sa saga horrifique Terrifier, elle, bah, justement connue pour son amour frontal des films d'horreur des années 80. Alors L'Élu s'en éloigne, hein, pour rejoindre le club des films essayant d'installer un malaise avec une esthétique instagrammesque, hein, avec des plans symétriques empruntés au Shining de Stanley Kubrick, sans arriver à en émuler la terreur sourde qui monte et qui rend l'adaptation polémique du texte de King si mémorable. Mais il faut se rappeler que Perkins a lui aussi adapté de façon polémique un texte culte de King avec The Monkey, hein, pour un résultat franchement gênant. Alors on attend donc plus, hein, de Perkins, hein, sur un terrain, hein, qu'il maîtriserait totalement, hein, sous peine de disparaître entre un Ari Aster ou un David Robert Mitchell, qui ont connu eux aussi de sacrés revers après leurs premiers efforts.
Eh bien, ce film, L'Élu, est en salle depuis le 10 décembre, me semble-t-il.
C'est ça.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
La semaine prochaine, tu nous parles d'un film très attendu.
Ah oui, très très attendu. Je vais même à la première séance, c'est Avatar de feu et de cendre.
Moi, je vous parlerai d'une enfance allemande, le dernier Fatih Akin, et puis je vous parlerai de BD que vous pourriez offrir à Noël ou après Noël. À la semaine prochaine.
Je t'ai rempli un chèque au nom de ton bookmaker Lazare. J'ai arrondi à 1 500 $. Je crois que c'est plus que tu lui dois, mais je me suis dit qu'un flambeur dans ton genre, t'auras bien l'occasion de griller le reste. Qu'est-ce qu'on dit ?
Merci.
Je t'en prie, cache ta joie. Enfin, c'est pas grave. Tu veux savoir pourquoi je te dédouane auprès de Lazare ?
Pas particulièrement.
Je veux qu'on devienne tous des amis. J'arrange ça, t'es ami avec Lazare, il est ami avec toi, t'es ami avec moi. Je veux juste que tu me prouves que t'es un ami en m'offrant Bernie Birnbaum. Tu sais que j'ai raison de vouloir le tuer. Ce Youpin est en train de m'arnaquer. Je peux pas laisser Léo lui offrir un parapluie neuf.
Alors l'idéal, c'est que je bute Bernie, je m'arrange avec Léo et tu me dédouanes avec Lazare.
Ouais, et on redevient tous des amis. Toi, moi, Léo, le Danois.
On pourrait même prendre le thé, un de ces quatre.
Allons, Eddie. L'amitié, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce t'en dis, hein?
Faut que j'y réfléchisse.
Faut qu'il y réfléchisse. T'entends, le Danois? C'est un grand penseur, c'est pas merveilleux?
Est-ce qu'il veut un oreiller pour être à l'aise?
D'accord, petit, réfléchis-y. C'est un état d'esprit. Je vais quand même t'aider. Faut que tu saches que si tu refuses de le faire, tu seras pas en état de marche très longtemps.
This is Cinerama. 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 Cinerama.